Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou et bienvenue dans le forum qui évoque plusieurs sujets d'intérêt général. Le forum du studio Kalangou est diffusé à travers nos 52 radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Vous pouvez également suivre nos émissions sur les réseaux sociaux. Le forum de ce soir est délocalisé à Maradi et le thème qui sera débattu est la récupération des terres dégradées à Maradi. De nos jours, suite à l'action humaine, mais aussi à l'action de la nature, dont les changements climatiques, l'érosion, la disparité des pluies, les vents forts, le rétrécissement des zones humides, font en sorte que les sols sont devenus secs et arides. Il faut alors, pour la survie des êtres humains, de la flore et de la faune, que ces terres soient restaurées. Cette restauration facilite la résilience économique, crée des emplois, augmente les revenus des populations, ainsi que la sécurité alimentaire. C'est aussi une manière de sauvegarder la biodiversité et améliorer de façon significative les conditions de vie des habitants. Au Niger, chaque année, plus de 100 000 hectares de terres agricoles sont récupérés, ce qui place le pays en première ligne de lutte face au changement climatique. De 2016 à 2021, plus de 780 000 hectares ont été traités, soit en moyenne 100 000 hectares par an selon les services de l'environnement. Dans la région de Maradi, le phénomène est aussi d'actualité. Une zone pastorale par excellence où les vastes étendues de plaines et plateaux sont aujourd'hui inadaptées aux cultures. La déforestation a dénudé les terrains, les animaux et autres oiseaux ont déserté les lieux pour des endroits plus cléments. Que faire pour sauver ces terres afin de leur rendre leur fertilité? C'est autour de ce sujet que nous allons échanger tout au long de ce forum. Nous avons comme invité le directeur régional de l'environnement de Maradi, colonel Lawali Soumeila. Bonjour colonel.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous sur ce forum. Nous avons à nos côtés également monsieur Adamou Idé Sanoussi, il est de l'ONG Teimokom Manoma. Bonjour monsieur Idé.
Bonjour madame.
Soyez les bienvenus sur ce forum. Merci à vous, chers invités, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je suis Rabia Mekano pour la présentation. Nous commençons cette émission avec vous, colonel Lawali Soumeila. Quelle est la situation de la dégradation des terres dans la région de Maradi aujourd'hui?
Ok, aujourd'hui, au niveau donc de la région de Maradi, la dégradation des terres, elle est vraiment, on ne peut pas dire qu'elle est accélérée, mais les terres sont en train d'être dégradées et on perd des terres du jour au lendemain. Notamment avec les surpâturages et aussi les pratiques vraiment inadaptées de l'agriculture. Au niveau de certaines zones. Donc quand nous prenons le cas de, par exemple, de la zone pastorale, notamment la zone pastorale, nous voyons aujourd'hui ce qui est en train de se passer, on est à d'abord une dégradation qualitative à certains endroits. Nous avons le tapis herbacé graminéen, le tapis graminéen, qui est en train de disparaître au profit des plantes des légumineuses. Que ces légumineuses-là, juste après la saison pluvieuse, elles disparaissent et laissent le terrain nu à la merci vraiment des vents violents. Et nous avons aussi des endroits où, c'est carrément dénudé dans la zone pastorale. Et dans la zone sud, nous avons beaucoup d'aires de pâturage qui sont qualitativement dégradées. C'est-à-dire que là où nous avons que des espèces qui sont non apaitées, des espèces qui sont envahissantes, c'est des espèces envahissantes comme le sida cordifolia, l'espèce sida cordifolia, qui est une espèce qui n'est pas apaitée. Donc cette espèce-là, elle envahit les couleurs de passage, les aires de pâturage, et ça provoque un manque à gagner. En tout cas, c'est une dégradation sur le plan qualitatif, donc sur le plan de biodiversité. Donc nous avons aussi, de manière générale, en termes de la biodiversité végétale, une dégradation parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu, des espèces d'importance capitale qui ont disparu, et d'autres sont en voie de disparition. Et ça, c'est lié à la pression d'exploitation de bois, énergie et même dans la moindre mesure, l'utilisation médicinale en fait qui est faite à outrance compte tenu de la monétarisation de ces produits de pharmacopée. Bon. Nous avons aussi des terrains où, avec le surpâturage, les aires de pâturage, en tout cas en zone, avec le sous-pâturage, on a tendance à avoir vraiment des bandes complètement dégradées. Parce que non seulement il y a le sous-pâturage, mais il y a la pression de l'exploitation du bois qui fait que le terrain est exposé. Et avec le phénomène de changement climatique, ça s'exacerbe parce que le changement amène aussi la mortalité de certaines espèces. Et le terrain devient en tout cas inculte. Et c'est vraiment des plages nues qui sont là, qui sont incultes, même s'il pleut, ça ne rentre pas. Donc c'est ce qu'on appelle des glacis. Donc on a toute une bande de glacis qui sont là et qui sont complètement choses qui ne permettent pas à un végétal d'émerger. Ouais. Voilà.
Monsieur Adamou Idé, grâce aux actions de votre ONG, vous êtes aux côtés de ces paysans. Alors, comment la dégradation des terres dont nous a fait la situation le colonel affecte le quotidien de ces paysans?
Ok, merci madame. Vous prenez un ménage, oui, qui exploite par exemple il y a 5-6 ans de cela, 10 hectares. Maintenant, avec la population, les ménages qui sont nombreux, ces terres s'aménagent, les superficies cultivables, les superficies sont morcelées, ouais, et partagées au niveau des ménages. Donc la production aussi, avec les terres qui sont lessivées. Parce qu'on cultive l'année 1, l'année 2, l'année 3, sans y apporter des apports. Donc les terres se lessivent et la production
baisse considérablement.
Donc c'est des conséquences, qui amènent les gens. Et quand vous amenez, quand il n'y a pas de production, les ménages les plus vulnérables, elles font pression sur les ressources qui sont aux alentours de ces villages-là.
Donc okay. D'accord. Ouais, voilà, on revient vers le colonel Lawali Soumaïla. Alors dites-nous, quelles sont les actions, est-ce que vous avez des actions au niveau de votre direction que vous menez justement pour la restauration de ces terres?
Oui, donc avant de répondre, donc je vais un peu ajouter ce que par rapport à l'impact, mm-hmm, des choses, parce que il a dit, il y a la conséquence. D'abord, il y a ce qu'on appelle la saturation foncière qui est là, liée à la surpopulation, c'est-à-dire à la démographie galopante. Donc, il y a la saturation foncière. En plus de la saturation foncière, vous avez une baisse de la production qui est non seulement liée à la saturation foncière, mais c'est lié aussi à une baisse de fertilité des terres. Maintenant, en plus de ça, vous avez aussi une baisse de la production pastorale. Parce que s'il n'y a pas le pâturage, il n'y a pas assez de pâturage, il va de soi que la production, en tout cas, en termes, l'élevage ne va pas donner les résultats escomptés. Or, nous avons, en fait, nous, la majorité de ce que nous faisons, la pratique de l'élevage qu'on fait, c'est la pratique de l'élevage excessif, qu'on appelle l'élevage contemplatif, c'est-à-dire que c'est l'augmentation du numéraire du troupeau. Que j'ai tel nombre de troupeaux. Non, c'est pas, en fait, on ne voit pas, est-ce que c'est des troupeaux qui sont réellement gras ou des machins. Bon, on ne voit pas l'embonpoint, on voit le nombre de choses. C'est quand ça chauffe qu'on commence à avoir des trucs cachectiques et c'est la catastrophe qui commence.
Ouais.
Voilà. Donc, ce que nous faisons, la contribution que nous amenons, c'est d'abord la restauration de ces terres-là. Donc, on récupère et puis maintenant, on accompagne le processus jusqu'à la restauration. La récupération, rien que par exemple pour cette année, on a récupéré environ 12 200 hectares de terres qui ont été récupérées. Et ça, c'est juste la récupération des terres, c'est-à-dire que les demi-lunes qu'on a fait, et puis même sur le plan agricole, on a fait des ailes. Donc, tout ça, là, on a mis ça ensemble. Donc, il y a les demi-lunes pastorales et les demi-lunes agricoles. Et il y a aussi les ailes qui ont été faites. Donc, le tout font environ 12 200 hectares de réaliser. Donc, en plus de ça, nous faisons la promotion de l'aliénation naturelle assistée dans les champs pour non seulement protéger les terres contre les effets de l'érosion hydrique et éolienne, mais aussi favoriser la conservation de la fertilité des terres. Donc c'est ça, de manière en tout cas générale. Et puis tout ça là, ça s'accompagne d'une stratégie donc de communication en fait en matière de sensibilisation des producteurs, en fait des producteurs pour dans le cadre de la gestion durable des terres. Voilà.
Ok. Et au niveau de votre ONG, Monsieur Adamou Idé, quelles sont les actions que vous menez allant dans le sens de la récupération, la restauration de ces terres?
Et des actions on amène au niveau des... Parce que je vais vous donner l'expérience de l'ONG. les deux ou les trois dernières années en ce qui concerne la gestion des terres. Et nous, l'intervention, c'est au niveau du département du Mehi, dans le cadre du Maradi, au niveau de la vallée du Gulbenkaba. On met en œuvre un projet qu'on appelle projet d'appui à la surveillance de Doumé, renforcement de ces filières. Et c'est un projet financé par la fondation qu'on appelle SEPR. Et à ce niveau, on a des actions communes au niveau des deux faciès de la vallée du Gulbenkaba. Il y a le faciès agricole et le faciès sylvopastoral. Au niveau du sylvopastoral, c'est des actions de récupération des terres liées à la régénération des terres, la régénération naturelle assistée, à la plantation de dômes et à la lutte contre les espèces envahissantes. Et ça, notamment le sida cordifolia. Et là, c'est des actions qu'on a eu à conduire au niveau de 2376 hectares de terre. Et au niveau du faciès agricole, là aussi, c'est la régénération naturelle assistée et de la foresterie frisée. Et la RNA, on l'a fait au niveau de 2650 hectares. Là, c'est la contribution de l'ONG pour la gestion durable des terres. Donc, il y a eu 2650 hectares au niveau des terres agricoles. Donc, c'est les actions qu'on a eu à conduire au niveau autour de la vallée dans le cadre d'un projet qu'on met en œuvre.
Okay. Oui. Merci bien. Nous en savons un peu plus maintenant sur la situation de la région par rapport à cette thématique. Nous voyons également les actions que mènent les ONG locales, notamment Temo Komonoma que nous avons reçu sur ce forum et le service de l'environnement ici à Maradi. Nous revenons sur le forum aujourd'hui du studio Kalangu qui traite de la récupération des terres dégradées à Maradi. Alors, nous voulons savoir à présent quels sont les défis que vous rencontrez sur le terrain dans cette lutte que vous menez, colonel. On revient vers vous.
Merci, Bassam.
Colonel Laure
Soumaïla. Oui. Donc, en fait, on peut parler de défis, mais le défi le majeur, en tout cas, c'est l'accompagnement des communautés. C'est-à-dire que ça, si on arrive vraiment à voir, on a en tout cas, on a l'accompagnement, mais on n'a pas l'accompagnement à 100% de communauté. Par exemple, quand on prend des terres, en tout cas des terres pastorales qui ont été récupérées, on les met en défense. Donc cette mise en défense, elle varie de 3 ans à 5 ans en fonction du niveau de dégradation des terres. Et ça, ça crée en fait une petite incompréhension parce que les gens ont tendance toujours à vouloir violer.
Ouais.
Ça, malgré qu'on met en place à chaque fois un comité de gestion. Et on met un comité de gestion, d'abord le comité de surveillance, et ensuite, au bout de 3 ans ou 4 ans, avant qu'on ne libère, ça c'est même une loi, on oblige à tout partenaire, que ce soit une ONG, ou même les services techniques, ou même l'État, à élaborer des plans de gestion avant de libérer des terres restaurées. Une fois que la terre est considérée comme étant restaurée, on fait un plan de gestion. Et ce plan de gestion, il subdivise, si vous prenez par exemple une superficie de 100 hectares récupérés, généralement on la divise en 2 ou en 3, en fonction en fait de son niveau de restauration, et on laisse une portion pour la verpâture, une portion pour la production de semences et une autre portion pour donc la production de du fourrage qu'on vend pendant la période de soudure. Donc, et cette vente de la paille, quand on l'a fait, les recettes issues de cette vente-là sont reparties entre le comité de gestion et le fonds villageois de développement et la commune. Donc, et ça, c'est dans le but, puisque dans ce qu'on donne au comité de gestion, là, c'est dans le but non seulement de permettre, en fait, de prendre en charge les surveillants communautaires, mais aussi de pouvoir faire la récolte des semences et d'intensifier les semis dans des zones où on a fait 20 pâtures cette année. Donc si on fait dans cette zone-là, l'année prochaine, on bouge le troupeau pour une autre portion et cette portion-là, on accompagne la restauration pour que vraiment on continue à gérer les terres sans pour autant que ça donc on revienne à la case de départ. On évite de revenir à la case de départ. Mais si on laisse comme ça, vraiment, au bout de 2 ans, 3 ans, on va revenir à la case de départ, c'est toujours la dégradation parce que on n'arrive pas à contrôler la charge pastorale. Si on ne contrôle pas la charge pastorale, c'est la dégradation pure et dure. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre défi, c'est vraiment, on a un problème par rapport au niveau de la récupération des terres, c'est qu'il y a des ONG, en fait, je ne considère même pas comme des ONG parce que c'est des individus non gouvernementaux, qui font office d'ONG et qui n'ont aucune spécialisation en matière de récupération des terres, qui font des dossiers, qui arrivent à avoir le financement, et ils disent qu'ils ont fait tel nombre d'hectares dans le système de faire-faire, mais en réalité, ce n'est pas ça. Si vous partez, ce n'est pas ça. Non seulement ce n'est pas ça, mais aussi l'orientation même des ouvrages. Vous allez trouver que sur les terrains, techniquement, les ouvrages sont mal orientés. Et une fois que les ouvrages sont mal orientés, au lieu de résoudre le problème de dégradation de terre, on accélère la dégradation de terre. Donc, vous voyez que ça, c'est...
Est-ce qu'il y a quand même des organisations non gouvernementales, des ONG, avec lesquelles vous collaborez, avec lesquelles vous arrivez à travailler main dans la main?
Oui, normalement, la loi dit, fait obligation.
Même sans les mentionner?
Non, la loi fait obligation à des ONG. Nous travaillons avec des ONG.
Okay.
Pratiquement, les ONG, quand ils vont faire des activités, il faudrait qu'au moins qu'ils passent au niveau de service pour notifier. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux qui font les frais, parce que c'est des ONG qui font ce qu'on appelle la prestation de services. La prestation de services. Mm-hmm. Donc, le projet ou l'organisation qui s'est signé le contrat avec l'ONG a une obligation normalement, de signer le contrat avec le service de l'État pour le contrôle des qualités. Malheureusement, il y a des endroits où ça ne se fait pas. C'est des gens qui vont sur le terrain, ils ne passent même pas par le service de l'environnement, et l'autre, il n'y a pas de contrat de suivi de qualité. Et des fois, on constate les faits. Et bon, à un moment donné, je ne dis pas maintenant, je dis à un moment donné, quand nous voulons même chasser les machins, bon, donc on impose, on dit non de laisser les gens faire.
Nous avons justement une ONG avec nous sur ce forum. Monsieur Adam Ouidé, comment vous se passe la collaboration? Comment vous arrivez à travailler avec le service de l'environnement, le service étatique? Comment ça se passe à ce niveau?
Et la collaboration avec le service de l'environnement au niveau de l'ONG, nous, toutes les activités que nous conduisons, ou bien tous les projets que nous conduisons, je l'ai dit, c'est d'abord, c'est des projets qui sont conduits et par rapport aux politiques nationales. Si c'est sur l'agriculture, on va avec le service de l'agriculture. Si c'est par rapport à l'environnement, on va avec le service de l'environnement. Nous, nos projets de l'environnement, la collaboration avec les services de l'environnement, elle est totale. Parce qu'au niveau terrain, il y a une collaboration avec les communaux et les services départementaux. Là, c'est une collaboration pour la mise en place, la mise en œuvre des activités. Ils nous suivent. C'est eux qui sont le contrôle qualité. C'est avec eux qu'on conduit les activités. Et au niveau de région et du ministère, là, c'est des missions de suivi, de conformité. Donc, chaque année ou bien chaque 6 mois, le ministère et le service régional font des missions pour constater ou pour suivre les activités que nous conduisons avec les services départementaux et les services communaux de l'environnement. Donc nous, par rapport au...
Ça se passe bien
avec eux. Et nous avons à chaque fois conventions de suivi avec ces différents services-là, ces différentes entités-là.
Un peu plus loin, le colonel avait soulevé un manque d'accompagnement de ces populations sur certaines actions que vous menez. Alors qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le problème à ce niveau?
Comme il a si bien dit,
le manque de suivi de ces actions mises en place.
Manque de suivi des actions mises en place. Bon, vous savez, généralement au niveau de ce qui fait, ce qui est, on peut dire, un problème par rapport au manque de suivi. Nous, au niveau des actions qu'on mène, c'est des actions qu'on cible, C'est-à-dire, par rapport, comme c'est des actions de cash parfois, on cible des personnes qui sont les plus vulnérables pour accompagner, par exemple, les activités de restauration des terres, pour qu'ils arrivent à gagner à des moments, au moment opportun, qu'elles arrivent à se prendre en charge. Mais malheureusement, il y a certains qui voient en ça comme un choix, oui, par rapport aux bénéficiaires. Donc c'est pour ça, parfois, il y a ceux qui sont un peu résistants à accompagner les actions de développement. Mmh. Parce que comme s'ils voient qu'il y a une partie qu'on a pris, et pourquoi pas eux.
Ouais.
Ouais, c'est ce qui fait par... Mais on arrive quand même avec les sensibilisations, avec les amener à accompagner les actions. De... Ouais. Il y a aussi le deuxième défi, c'est par rapport à... on met en défend, mais il y a ceux qui fraudent. Il y a ceux qui fraudent la nuit, ou bien quand les surveillants ne sont pas là, ils viennent exploiter. Ouais. Donc là, ça, c'est un problème que... On peut dire quoi, quand tu fais ça, tu n'accompagnes pas.
Oui.
Tu n'accompagnes pas.
Et selon vous, justement, quand on parle d'accompagnement de ces populations, comment les amener? Vous y arrivez parce que vous ciblez bien, mais comment les amener à vraiment s'intéresser, à s'impliquer davantage dans ce travail pour restaurer leurs terres qu'eux, ils exploitent?
Oui, c'est ce que j'ai dit dans un premier temps. À tous les niveaux, il faut une implication de tout le monde. Nous, l'implication de tout le monde, elle est importante. Et par exemple, vous avez une terre à récupérer, vous avez une terre à restaurer, il ne faut pas s'arrêter seulement au village qui est un peu proche. Non. C'est une utilisation qui est commune. C'est une utilisation, donc, il faut que ça va être des actions concertées. Les transhumants, ceux qui sont du passage, ceux qui sont autochtones, il faut impliquer tout le monde pour qu'on arrive à pérenniser le travail. Donc l'implication là, elle est importante. Il y a aussi, il faut sensibiliser les amener à comprendre que les terres là, si elles sont réservées, c'est pas pour quelqu'un, c'est leur terre. Et c'est leur terre qu'ils doivent restaurer. Et s'ils font eux-mêmes la comparaison, il y a 20-30 ans et aujourd'hui, quels sont les changements par rapport à ça? Et c'est à eux, c'est pas à quelqu'un de venir faire le travail à leur place. Donc, c'est amener les gens à comprendre à travers ces actions de sensibilisation, ces actions d'implication pour qu'ils arrivent à prendre en charge eux-mêmes leur activité.
Merci bien, colonel Laoli Soumaïla. Comment vous arrivez à percevoir l'impact de tout le travail que vous faites? Est-ce que c'est vraiment visible sur le terrain? Vous arrivez à avancer, à changer les choses?
D'abord, quand vous prenez dans le cadre de la récupération des terres, c'est là, les parties où on a fait une restauration, en fait une récupération des terres pastorales, on voit le pâturage qui est là à partir de lui. On voit. Que ce soit en saison pluvieuse ou après la saison pluvieuse, quand on partait, c'est un site où on a vraiment travaillé. Ça se voit. On a fait de 2 millions, on a ensemencé, ça se voit. On a fait des plantations, ça se voit. Même s'il y a même s'il y a la mortalité, on va trouver certains. Et là, je vous dis. Non seulement on a au niveau donc du ministère, il y a ce qu'on appelle le Centre national de suivi écologique et environnemental qui sillonne les différents sites de restauration pour évaluer sur le plan écologique et même sur le plan socio-économique les effets et les impacts de ce que nous avons fait. Donc, et en termes de ça, par exemple, quand vous prenez, on fait une évaluation des pâturages, on va vous dire que c'est là où nous avons restauré, on est arrivé à avoir une contribution de tel nombre de kilos, ou tel nombre de tonnes, ou tel nombre de kilos à l'hectare, équivalent à tel nombre de tonnes sur l'ensemble des sites. Et par rapport à la diversité biologique, on va vous dire que l'endroit où il n'y avait que deux ou trois espèces d'herbacées ou de ligneux, et qu'aujourd'hui, avec l'intervention, on est arrivé à avoir, par exemple, 15, 20 à 30 espèces. Donc, en termes de diversité de végétaux, on en a. Mais en plus de ça, le fait qu'on crée une sorte de buisson à cet endroit-là attire maintenant les animaux de faune qui ont quitté. certains oiseaux, comme les outards, comme les qui ont quitté, les certains oiseaux qui ont quitté, reviennent sur le site. Et par exemple, certains rongeurs, comme des lièvres, et comme ça, qui n'existaient pas, sont revenus. Par exemple, sur le site où ils ont intervenu, et il y a des gens qui disent qu'avant leur intervention, 30 ans en arrière avant leur intervention, ça n'existait pas. Il n'y a pas de lièvres au niveau de la zone. Mais quand on a fait le suivi, on a évalué, moi j'ai participé à l'évaluation de leur projet. À l'évaluation du projet, on a trouvé des lièvres, on a même trouvé des cadavres de lièvres. Donc, comme on a trouvé non seulement des crottes, mais on a trouvé même des cadavres de lièvres. Donc, ça veut dire qu'il y a des lièvres qui sont revenus. On a trouvé aussi des outardes qui sont revenus. On a trouvé leurs yeux, on a trouvé tout. Donc, il y a un retour progressif de la faune. Donc, en termes de diversité, de biodiversité, donc il y a un impact en matière de biodiversité. Mais il y a l'impact aussi en matière de fourniture des services écosystémiques à la population. Notamment, par exemple, des produits forestiers non lignés que les gens vont avoir à cet endroit et autre chose.
Ouais.
Quand vous prenez la récupération de la régénération naturelle assistée, et il y a de cela une vingtaine d'années, je crois que c'est une institution américaine en tout cas, avait vu sur des images satellites une bande assez importante de végétation. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce qui a amené le reverdissement de la zone sahélienne? Donc, il y a eu une étude là-dessus qui a montré que non, en fait, c'est la régénération naturelle, c'est-à-dire que les défrichements améliorés qu'on faisait là, qui a évolué pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui un type de formation forestière, en tout cas particulier, qu'on appelle le parc agroforestier. Donc, c'est le parc agroforestier, quand vous voyez, vous allez penser que c'est une forêt qui est là, mais c'est dans les terres agricoles, c'est dans les champs. Donc, c'est le parc agroforestier. Et aujourd'hui, la loi 2004-040, la loi donc que nous utilisons aujourd'hui, que les forestiers utilisent, a pris en compte ce type de formation végétale, le parc agroforestier, comme étant une formation végétal forestier qu'il faut nécessairement protéger, qu'il faut nécessairement gérer de façon à ce que ça soit maintenu. Donc vous voyez que ça il y a l'impact en tout cas sur le plan écologique. Maintenant sur le plan socio-économique, il y a une diversité d'activités qui se développe autour de ces parcs agroforestiers. Je prends le cas par exemple de Nsaga qui l'a soulevé. À Nsaga, c'est dans le département d'Agué. Si vous partez là-bas, vous allez trouver que non seulement il y a le parc agroforestier qui est là, qui permet de renforcer la production agricole, de conserver l'humidité, ainsi de suite. Parce que quand vous rentrez là-bas, vous avez un autre climat. Donc ça crée un microclimat. Et là, il y a aussi le paysage. Donc il est agréable à voir. En plus de ça, nous avons mis en place un système d'utilisation, c'est-à-dire que d'exploitation de bois, hein, les gens peuvent exploiter, mais on ne coupe pas les troncs, mais on enlève les branches. Hein. Et c'est ces branches-là, les paysans, ici, là, par exemple, 20 pieds dans son champ, donc il a droit à enlever les branches de 5 arbres par an, donc pendant 5 ans. Et ça, et le cycle reprend. Donc les 5 arbres-là, il prend pour sa propre consommation et les restes, il les amène au marché qu'on a mis en place officiellement, le marché de bois. Il vend, mais il ne paye pas la taxe. Et cette taxe-là, elle est subdivisée. Il y a 50% qui reste là-bas au niveau de son village et les 40% c'est versé à la mairie. Il n'y a que 10% qui va à l'État. Mmh. Alors que si c'est comme ça, incontrôlé, c'est seulement 10% qui reste à la mairie et l'État prend 90%. Mmh. Donc en plus du bois, il y a une activité de l'apiculture qui s'est développée. C'est-à-dire qu'il y a la production de miel là-bas. Maintenant, il y a des groupements féminins aussi qui ont été formés à utiliser, par exemple, le machin, là, comment on appelle, le fruit de Balanthès, à Doua, de Balanthès, et qui font de l'huile et du savon. Hein? Il y a une multitude d'activités qui s'est développée à cet endroit-là et qui permet sur le plan social et sur le plan économique de montrer vraiment un impact assez intéressant au niveau des choses.
Merci bien. On revient vers vous, Monsieur Adamou Idé. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à tout ce que vous faites aux côtés de ces paysans, aux côtés de ces communautés, est-ce que vous avez des objectifs que vraiment vous visez?
Le plus gros point que nous veut est que demain, si le projet aujourd'hui, le projet il est là aujourd'hui, d'ici de 1 an, 2 ans, il va partir. L'objectif, on veut qu'on ne revienne pas à la case de départ. Ouais. Il faut que les gens arrivent à pérenniser tout ce que le projet a investi. Il faut que les gens arrivent à prendre en charge. Pas le site seulement que le projet. Parce que nous, quand l'exemple que je vous ai donné, c'est une vallée qui fait les 10 500 hectares. Parce que c'est une vallée qui prend sa source du Nigeria, elle traverse Agué, elle traverse Tessawa, Miaï et Dakoro, et elle retourne au Nigeria. Mais la partie de Kadambakashi est la seule qui a gardé les potentialités. Ouais. Toutes les autres parties sont devenues des terres agricoles. Donc on veut que la partie-là, au moins, qu'elle soit préservée. Et que les gens ne s'arrêtent pas. Parce que nous, on n'a pas pris toute la partie, toute la superficie. On n'a fait qu'une portion de cette superficie-là. On veut que les gens arrivent à pérenniser d'abord ce que nous, on a laissé comme héritage. Et il faut que les gens continuent. Parce que les actions qu'on a eu à réaliser, c'est des actions qui peuvent être reproduites localement. Donc il faut que les gens arrivent à continuer eux-mêmes ce qu'on a laissé comme héritage. Les activités de RNA, on n'a même pas besoin. Ce n'est pas un coût élevé. Eux-mêmes, ils peuvent venir faire ça. Il faut que les gens arrivent à comprendre que la vallée, là, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est une vallée qui leur appartient et les services qu'elle peut produire. J'ai entendu, il y a le colonel qui a dit au niveau de Dansaka, les gens qui arrivent. Mais au niveau de la vallée de Gulbenkaba, il y a une activité qui dirait la suite de revenir. C'est ce que surtout les femmes sont en train de conduire. C'est l'activité de l'artisanat à partir du jour. Et c'est une activité qui est en train de donner des ressources à ces femmes-là. Elles ont monté, et il y a les comptoirs aussi. Et les femmes-là ont monté des coopératives et des organisations et qu'elles sont en train de produire des articles et qu'elles vendent très bien. Ouais. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre qu'à partir de ces ressources-là, elles peuvent se prendre en charge. Donc c'est ça. Il ne faut pas que l'héritage que le projet a laissé, après le départ du projet, que les gens se laissent, que ça continue à se dégrader. Mm-hmm. Il faut qu'ils arrivent à prendre en charge eux-mêmes ces ressources-là.
Bon, merci bien. Nous allons observer une petite pause avant de venir à notre dernière question qui va porter sur vos recommandations. Nous revenons avec nos invités du forum d'aujourd'hui qui porte sur la restauration des terres à Maradi. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Quelles sont vos recommandations ou suggestions pour plus d'actions dans le domaine de la récupération des terres à Maradi? Colonel Lawali, la parole à vous.
Donc en fait, d'abord moi, je m'adresse en tout cas d'abord à la population. La population, il faudrait que la population sache que toutes les activités qu'on fait, c'est pour elles. Ce n'est pas pour le projet. Que les gens ne voient pas C'est vrai, certes, c'est des trucs de cash for work qu'on fait, mais le cash for work, on le fait, c'est pour pouvoir les aider parce que la plupart des gens sont vulnérables. Donc, on les aide juste pour qu'ils puissent vraiment travailler pour eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils s'en approprient. C'est l'appropriation d'abord de ces activités. Parce que quand ils s'approprient de ces activités-là, on ne peut pas revenir en arrière. Mais s'ils ne s'approprient pas, quel que soit ce qu'on va faire, ils vont voir l'argent. Si ça se dégrade, d'autres vont venir encore faire, ils vont nous donner de l'argent. Mais il y aura un jour où les gens ne vont plus là-bas parce que c'est comme si on est en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Donc, il faudrait que les paysans soient en fait conscients de ça. Et pour ça, en tout cas, les ONG doivent travailler, les ONG et les projets, et même les services d'État, on doit travailler à amener la population à comprendre que ce qu'on est en train de leur faire là, ce n'est ni pour l'État, ni pour les projets, non, c'est pour eux-mêmes. Parce que une fois que les terres sont récupérées, aucun agent, ni de l'État, ni des projets, ne bénéficie des services écosystémiques produits par les sites. C'est eux-mêmes qui vont bénéficier. Et si le site est pérenne, c'est eux qui vont continuer jusqu'à leur petit-fils. Parce que si nos parents n'ont pas su protéger, nous, on n'allait pas trouver. Donc il faudrait que nous-mêmes, on arrive à protéger pour que nos fils et nos petits-fils puissent en tout cas trouver. Maintenant, d'autre part, il faudrait que, ça c'est à l'endroit des ONG, il faudrait que vraiment, quand ils signent des conventions, avec des conventions de prestation, qu'ils arrivent vraiment à... Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là pour... On leur a donné l'État leur a accordé un crédit pour le bien-être des communautés. Il faudrait qu'ils œuvrent pour le bien-être de ces communautés-là. Et à l'endroit des projets et choses, il faudrait aussi des projets et des associations de choses, il faudrait que ces projets-là puissent effectivement mettre l'accent, un accent particulier sur vraiment le suivi de ce qui est en train de se faire sur le terrain. Il y va de la crédibilité du projet, il y va aussi de la crédibilité de partenaires qui financent ce projet-là. Voilà.
Monsieur Adam Ouidé, vos recommandations et suggestions
sur ça. Okay. Comme recommandation, suggestion, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit le colonel, mais sur ce que je dois insister, c'est la synergie. Et là, c'est à l'endroit de l'État ou bien des services de l'État. Parce qu'on est plusieurs intervenants sur le terrain, mais parfois, il y a des incompréhensions au niveau des actions. Donc, il faut qu'autour de la direction ou bien autour de la direction de l'environnement, qu'il y ait une synergie avec tous les projets qui interviennent dans le même domaine. Là, c'est important. Et s'il n'y a pas cette synergie-là, on risque d'en pâtir par rapport aux actions. Parce qu'il faut que s'il y a deux intervenants sur un même terrain, il faut que chacun arrive à savoir les actions de l'autre et les sites sur lesquels l'autre intervient. Parce que parfois, il y a des chevauchements au niveau de ça, c'est important. Et aussi pour l'État, il faut que, bon, je peux le dire, l'État arrive à mettre en place quoi, un suivi après projet. Parce que quand le projet s'en va, il faut que le suivi là, avec les services de l'environnement, il faut que ça soit
systématique.
Oui, il faut que l'État donne les moyens à ces services-là pour qu'ils arrivent à suivre et appuyer la pérennisation des acquis. Là. Ça, c'est important. Oui, c'est tout ça.
D'accord, ok.
Oui, en fait, c'est juste pour le compléter. La synergie, effectivement, c'est moi, je vais au-delà de la synergie. C'est la synergie et la complémentarité. Et par rapport à la synergie, ce n'est pas la direction... La direction ne peut que conseiller. En fait, le service de l'environnement ne peut que conseiller. Sinon, c'est les communes qui sont les portes d'entrée. C'est les communes qui doivent veiller à ce qu'il y ait cette synergie-là. Et même la complémentarité.
Ouais.
Maintenant, pour le cas, par exemple, de la complémentarité, il y a des gens qui, en fait, sur un même terrain, au lieu de dire, de venir faire, par exemple, 2 ou 3 hectares, alors que quelqu'un a fait 50 hectares, les 2 ou 3 hectares là, au lieu de faire la récupération, vous pouvez, peut-être que l'autre, lui, il a fait, mais il n'a pas accompagné par des plantations, ou d'ensemencement. Donc, vos 2 ou 3 hectares là, normalement, les communes peuvent solliciter, pour que on les transforme en ensemencement et achat. Ça fait la complémentarité. Et il y a aussi, dans l'aspect des synergies, c'est surtout par rapport même à choses. On peut intervenir dans la même zone et que vous trouvez le mode d'intervention diffère d'un partenaire à l'autre. Je donne un exemple. Par exemple, Tamoko Monoma peut intervenir à un endroit où il donne, par exemple, à un homme jour, 1000 francs, ou 1300, comme l'État a dit, 1300. Maintenant, il y a un autre partenaire qui vient, il donne 1500. Donc, ce qui fait que dès que Tomoko Monoma va venir, au moins, si ce partenaire est dans la zone-là, les gens ne vont pas aller chez Tomoko Monoma parce que. Donc, ils vont aller au plus offrant.
Ouais.
Et donc, ça, c'est un problème que les communes doivent, en tout cas, gérer et régler à leur niveau pour qu'il n'y ait pas vraiment ces disparités-là dans les modes d'intervention. Donc, et ça crée le manchot. Donc, je trouve que les prévus, effectivement, au niveau de chaque commune, la création d'un cadre de concertation entre les acteurs.
Ouais.
Entre les acteurs. Et ce cadre de concertation-là, c'est un cadre où, normalement, les acteurs doivent se retrouver et pour pouvoir parler le même langage auprès de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que ces multitudes où ces variabilités d'intervention ont amené les producteurs à ne pas être francs. À ne pas être francs avec les communautés. Ne sont pas franches avec les intervenants. Dès que vous venez, même les enquêtes là, aujourd'hui, toutes les enquêtes que les autres font, c'est des enquêtes qui sont biaisées. Parce que dès que vous commencez, le paysan peut vous donner, il vous donne une information qui n'est pas ça. Et vous transcrivez. Vous voyez ? Alors qu'il y a, en fait, c'est parce qu'il y avait tellement de... Nos communautés sont devenues un terrain d'expérimentation. Chacun vient avec son outil et essaie de tester. Donc, on n'arrive pas à harmoniser à l'échelle nationale les outils d'intervention et milieu. Il faut qu'on arrive à harmoniser. Il faut qu'on arrive à l'harmoniser.
Politique claire et précise.
Oui, la politique, elle est claire. La politique, elle est claire. Mais c'est les outils qu'on applique auprès des producteurs qui sont vraiment divers. Il y a divers outils. Et c'est ça que ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes dans la tête du producteur et ça les rend moins francs. Donc, vous voyez, ça, c'est un problème. Il y a par exemple, même par rapport aux ONG, je vous assure que dans d'autres pays, par exemple, prenons le cas du Burkina, ils ont c'est un secrétariat, un secrétariat permanent, le SPONG, un secrétariat permanent des ONG. Donc, toutes les ONG, qu'elles soient nationales ou internationales, sont affiliées à ce secrétariat-là. Et elles sont évaluées chaque année. Donc, le SPONG peut contenir 100 ONG cette année et l'année prochaine en contenir 50 parce qu'ils ont compris que 50 ONG ne sont pas vraiment des ONG qui sont là pour le développement. Donc, ça, il faudrait que nous, l'État, arrive à mettre en place ce système-là qui permet de mieux contrôler ce que les ONG sont en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas ça. On ne maîtrise pas ce que les ONG font sur le terrain. On ne maîtrise pas.
Merci bien. Alors, nous sommes... au terme de ce forum, merci à nos invités. Nous avons échangé avec vous sur le thème de la récupération des terres dégradées à Maradi. Et nous retenons de cet échange que la dégradation des terres est une réalité à Maradi et qu'on perd des terres à cause du surpâturage et d'autres mauvaises pratiques humaines. Des actions sont menées par le service régional de l'environnement et les ONG locales, notamment Temokom Manoma, que nous avons reçu sur ce forum. Mais la collaboration des populations fait quelquefois défaut sur cette lutte pour la restauration des terres. Un retour progressif de la biodiversité est en train de déclore grâce aux actions que mènent les acteurs dans ce domaine. Nos invités s'accordent à dire que les populations devraient s'approprier ces actions menées, devraient s'impliquer davantage pour pérenniser les acquis. Merci à vous, chers invités. Merci également à vous qui nous suivez à travers les 52 radios partenaires de Studio Kalangu dans toutes les régions du Niger. À la présentation, vous étiez avec Rabia Meikano et Seini Isaka qui nous a accompagnés à la technique. Merci, à très bientôt.